profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Bonsoir, bonsoir. Les frimas de l'automne pourraient nous engourdir. Alors réchauffons notre soirée avec quelques histoires. Voici notre programme. De Roald Dahl, une histoire bizarre intitulée Peau, P-E-A-U. Puis, l'histoire de Camille sauvée par une abeille tueuse. De Roald Dahl, Peau, P-E-A-U. L'hiver, cette année-là, c'était en 1946, fut interminable. En plein mois d'avril, un vent glacé s'engouffrait dans les rues de la ville et des nuages chargés de neige balayaient le ciel. Le vieil homme, son nom était Drioli, se traînait péniblement le long du trottoir de la rue de Rivoli. Transi, famélique, en boule comme un hérisson dans son pardessus noir et crasseux, il avait relevé son col. On ne voyait plus que ses yeux et le sommet de son crâne. La porte d'un café s'entr'ouvrit et une vague odeur de poulet rôti lui fit mal au creux de l'estomac. Il avançait, regardant sans les voir les chemises et cravates de soie, les diamants, parfums, porcelaines, meubles anciens et livres rares. Arrivé devant une galerie de peinture, il s'arrêta. Il avait toujours aimé la peinture. Dans la vitrine, une seule toile. Il la regarda et se détourna, prêt à continuer son chemin. Soudain, il hésita, regarda de nouveau la toile et ressentit brusquement une impression curieuse, un malaise, un tressaillement de la mémoire, le souvenir obscur et lointain de quelque chose qu'il avait déjà vu quelque part. Il regarda encore un paysage, une masse d'arbres vertigineusement penchés et tordus par un vent démentiel comme un ciel tourbillonnant. Fixé sur le cadre, une petite plaque gravée. Kaïm Soutine, 1894-1943. Drioli ne pouvait détacher ses yeux du tableau. Pourquoi lui paraissait-il familier ? Une peinture extravagante, certes, tout à fait extravagante, mais qui lui plaisait. Kaïm Soutine. Soutine. Mon Dieu, c'est lui, s'écria-t-il tout à coup. Bien sûr, c'est lui, mon petit Kalmouk, avec une toile dans une des meilleures galeries de Paris. Incroyable. Le vieil homme se rapprocha et pressa sa face contre la vitre. Il se rappelait le garçon. Il se le rappelait même très distinctement. Mais où et quand ? Ce souvenir, du reste, n'était pas si facile. C'était vieux, vieux. Combien de temps, voyons ? 20 ans ? Oh non, plutôt 30. Mais oui, c'était en 1913, un an avant la guerre, la vraie, qu'il avait connu ce petit Kalmouk, laid, taciturne, toujours sombre, ce garçon qu'il aimait bien, pourtant, car c'était vraiment un peintre. Ah, pour ça, oui, il savait peindre, ce gosse-là. Les souvenirs affluaient maintenant en masse. La rue, les poubelles rangées sur toute sa longueur, les chabruns qui se faufilaient délicatement entre les tas d'ordures, et les femmes, ces femmes grasses et moites, toujours assises devant leurs portes, avec les pieds sur les pavés de la rue. Mais quelle rue ? Où habitait donc le petit ? Cité Falguière, voilà, le vieil homme opina plusieurs fois, ravi d'avoir retrouvé le nom de la rue. Il y avait aussi l'atelier avec son unique chaise et le divan rouge, malpropre, où le peintre dormait. Les soirées de beuverie, où l'on se saoulait au vin blanc, et dominant tout, le visage sombre et amer du garçon qui se tourmentait sans cesse au sujet de sa peinture. Curieux, pensa Drioli, comme tout lui revenait maintenant avec facilité. Chaque petit détail évoqué semblait en appeler un autre. Cette blague du tatouage, par exemple, quelle histoire de fou! Voyons, comment avait-elle commencé? Ah oui, c'était ce fameux jour où, se sentant riche, il avait acheté tant de vin. Il se rappelait bien le moment où il était entré dans l'atelier, le paquet de bouteilles sous le bras. Assis devant son chevalet, le garçon peignait et sa femme, celle de Drioli, posée debout au milieu de la pièce. « Ce soir, les enfants, avait-il annoncé, c'est fête. Une petite fête rien que pour nous. »« Et qu'est-ce qu'on fête ?» avait demandé le garçon sans lever les yeux. « As-tu par hasard décidé de répudier ta femme pour que je l'épouse ?»« Non, fit Drioli, aujourd'hui, on fête ma richesse. Je suis un vrai nabab. J'ai travaillé dur et gagné beaucoup d'argent. »« Et moi, pas un sou. Ça se fête aussi. Si tu veux. » Debout près de la table, Drioli défaisait le paquet. Il mourait de soif. 9 clients dans la journée, 9 troufions avinés, dont 7 avaient payé comptant. On n'avait jamais vu ça. Fallait pas s'en plaindre, bien sûr. Mais il était crevé. Les yeux surtout, les blancs striés d'un fin réseau de veinules rouges, les paupières lourdes, à demi fermées. Il sentait au fond de ses orbites une douleur aiguë et lancinante. Mais baste, la journée finie, les poches pleines et 3 bouteilles, une pour lui, une pour sa femme, une pour son copain, il était heureux. Fouillant dans l'atelier, il trouva le tire-bouchon et déboucha les bouteilles. Chaque bouchon sortait avec un petit pop. Le peintre lâcha ses pinceaux. « Bon sang, s'écria-t-il, c'est impossible de travailler avec tout ce remue-ménage. » La jeune femme traversa l'atelier pour regarder le tableau. Drioli s'approcha aussi, une bouteille dans une main, un verre dans l'autre. « Non !» hurla le garçon soudain furieux. « Non !» En levant la toile du chevalet, il la tourna contre le mur. Mais Drioli l'avait vu au passage. « Ça me plaît. C'est très mauvais. C'est magnifique, comme tout ce que tu fais d'ailleurs. Moi, j'aime ta peinture. »« Dommage qu'elle ne soit pas comestible, » fit le petit. « D'un air bougon, je ne peux pas la manger. » « Qu'est-ce que tu veux? Elle me plaît, allons, bois !» fit Drioli en lui tendant un verre rempli d'un vin jaune pâle. « Bois, ça va te ragaillardir !» Non, il n'avait jamais rencontré être humain aussi profondément malheureux, se disait Drioli. Jamais le visage aussi tourmenté et amer. Il avait remarqué dans un café 7 mois plus tôt, attablé et buvant seul. Parce qu'il ressemblait à un slave ou à un asiate, Drioli, s'installant en face de lui, avait demandé « Tu es russe ?»« Oui. » »« D'où ?»« De Minsk. » Drioli, se levant d'un bond, l'avait pris dans ses bras, tout heureux en s'écriant que lui aussi était originaire de Minsk. « Moi, ce n'est pas tout à fait Minsk, mais tout près, » avait dit le garçon. « Où ça ?»« Smilovitchi, à une 15aine de kilomètres. »« Smilovitchi ?» s'était écrié Drioli. « Smilovitchi ?» Je m'y suis souvent promené lorsque j'étais gosse. Alors, il s'était assis, regardant affectueusement l'autre. Et c'est drôle, avait-il remarqué. Tu n'as pas du tout l'air d'un russe de l'Ouest, mais pas du tout. Tu ressembles à un tartare, je dirais même plutôt un kalmouk. Et maintenant, debout dans l'atelier, Drioli observait encore le garçon qui prit son verre et avala son vin d'un seul trait. C'était bien une tête de kalmouk, aux pommettes hautes et saillantes, au nez aplati, taillé à coups de serpe. De grandes oreilles décollées accentuaient la largeur de la face. Les yeux bridés, les cheveux noirs, les lèvres épaisses et boudeuses, oui, tout à fait ça. Mais en revanche, chaque fois que Drioli regardait les mains du peintre, leur finesse et leur blancheur le surprenaient. De vraies mains de femme aux doigts menus et légers. « Donne-moi encore, veux-tu ?» fit le garçon en tendant son verre. « Puisque tu dis que c'est fait aujourd'hui, faisons bien les choses. » Drioli versa une deuxième tournée et s'assit sur la chaise. Le peintre s'installa sur le divan avec la jeune femme, les 3 bouteilles par terre entre eux. « Ce soir, » dit Drioli, « pas besoin de s'en faire. On peut prendre une cuite. Je suis riche. » « Je devrais peut-être aller acheter encore quelques bouteilles. Combien font-ils en rapporter ?»« 6 de plus, » déclara le garçon. « 2 pour chacun de nous. »« Bon, je vais les chercher. Je viens t'aider. » Au café le plus proche, Drioli acheta 6 litres de vin blanc qu'ils ramenèrent à l'atelier. Drioli, armé du tire-bouchon, les déboucha l'une après l'autre et les aligna par terre sur 2 rangs. Tous 3 s'installèrent pour continuer leur beuverie. « Seuls les Richards peuvent souffrir de telles fêtes, » dit Drioli. « C'est vrai, » acquiesça le jeune homme. « Dis, Josie, n'est-ce pas que c'est vrai ?»«
Bien sûr.
Comment te sens-tu, Josie ?»«
Merveilleusement bien. »
« Veux-tu quitter Drioli pour moi ?»«
Sûrement pas. »
« Un vin rare, » apprécia Drioli, « c'est un privilège que de le boire. » Sans se hâter, avec application, il se saoulait. L'habitude était devenue chez eux routine, mais il fallait obéir à des rites, garder un maintien grave, prononcer les mots de circonstance, les dire et les redire. Il était séant, par exemple, de prôner le vin et de prendre son temps afin de mieux savourer les 3 stades de transition, surtout pour Drioli, pour arriver au stade du flottement, celui où ses pieds cessaient d'être à lui. C'était là le meilleur moment. Il baissait les yeux, voyait ses pieds à une grande distance, se demandait à quel idiot ils appartenaient et pourquoi on les laissait traîner là-bas si loin. Au bout d'un moment, il se leva pour donner de la lumière et fut surpris de constater que les pieds le suivaient, l'accompagnaient partout, d'autant plus surpris qu'il ne lui semblait pas toucher terre. Il avait l'agréable sensation de marcher sur des nuages. Il erra autour de l'atelier et se mit à regarder furtivement l'étoile retournée contre le mur. « Écoute, » dit-il quelques instants plus tard, « j'ai une idée. » Il traversa l'atelier et vint se planter devant le divan en titubant légèrement. « Écoute-moi, mon petit Kalmouk. Que veux-tu ? » ?»«
J'ai une idée absolument sensationnelle. M'écoutes-tu ? » ?»«
Non, j'aime mieux écouter Josie. Écoute-moi, je t'en prie. » »«
Tu es mon copain, mon petit Kalmouk de Minsk. »
Mais tu es aussi un grand artiste et j'aimerais posséder une de tes œuvres.
Je te les donne toutes, tu n'as qu'à te servir, mais ne m'interromps pas lorsque je cause avec ta femme.
Non, tu n'as pas compris. Écoute-moi bien, je veux une œuvre que je garderai toujours, toute la vie. Une œuvre qui m'accompagnerait partout, quoi qu'il arrive. Une œuvre signée de toi. Tu m'entends ?
Il se pencha, posa la main sur le genou du garçon et le secoua. «
Écoute, je t'en prie. »«
Mais écoute-le donc, » fit la jeune femme. « Voici mon idée.
Je voudrais que tu peignes quelque chose sur mon dos et qu'ensuite tu le fixes par un tatouage. »«
Bah, tu as des idées de cinglé. » »«
Je te montrerai comment on fait un tatouage. Tu verras, c'est facile, un jeu d'enfant. »«
Je ne suis plus un enfant.
Je t'en prie. »
« Je te répète que tu es fou, mais qu'est-ce que tu veux, à la fin ?»
Le peintre plongea ses yeux dans les prunelles sombres, fixes, allumées par la boisson de l'autre homme.
« Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu veux ?»«
Tu pourrais me faire si facilement ce plaisir.
Tu le pourrais. Je te dis que tu le pourrais. »«
Tu veux dire le tatouage ?»«
Oui, le tatouage. Je te montrerai en 2 minutes comment on fait. »«
Non, ce n'est pas possible. » « Insinuerais-tu par hasard que je ne sais pas ce que je dis ?»
Non, il ne pouvait insinuer cela, ce petit car si quelqu'un connaissait son métier, c'était bien lui, Drioli. N'avait-il pas, le mois dernier, recouvert tout le ventre d'un homme d'un dessin exquis, un ravissant et délicat semis de fleurs ? On avait tatoué, avec une science consommée, un ours brun sur la poitrine velue d'un client, se servant des poils pour imiter la fourrure de la bête. Qui savait placer un nu féminin avec tant d'art sur un bras d'homme que le jeu des muscles, lorsque ce bras fléchissait, animait le corps de la femme, lui faisant faire de surprenantes contorsions.
« Tout ce que je dis, » fit le garçon, « c'est que tu es saoul et que ton idée, c'est une lubie d'ivrogne.
Josie pourrait nous servir de modèle.
Une étude de Josie sur mon dos. N'ai-je pas le droit d'avoir le portrait de ma femme sur le dos ?»
Un portrait de Josie ?
Mais pourquoi pas ? Drioli savait bien qu'à la seule mention du nom de sa femme, les grosses lèvres brunes du peintre se mettaient à trembler.
Non, dit la jeune femme. Josie, ma chérie, je t'en prie, prends cette bouteille et vide-la. Ça te rendra compréhensive.
C'est une idée formidable. C'est bien la première fois de ma vie que j'ai une idée pareille. Mais quelle idée ?
Celle de faire tatouer ton portrait sur mon dos.
Un portrait de moi ?
Un nu, dit le garçon, l'idée est plaisante. Non, pas nu, fit la jeune femme.
Je vous répète que mon idée est sensationnelle, insista Drioli.
C'est une idée de fou, dit Josie.
De toute façon, c'est une idée, dit le jeune homme.
Et une idée, ça se célèbre.
Ils vidèrent une autre bouteille. Puis le garçon dit
« Ton idée de tatouage, je ne vois rien, je ne saurais pas le faire. Laisse-moi plutôt peindre le portrait de Josie sur ton dos.
Il sera bien aussi longtemps que tu ne prendras pas de bain. Et si tu ne te laves plus jamais, ben, tu l'auras toute ta vie. »
« Non, dit Drioli. Le jour où tu décideras de te laver, je saurai que tu n'attaches plus de valeur à mon œuvre. Je saurai le cas que tu fais de mon art. »
« Non, je n'aime pas cette idée, dit la jeune femme. Il y a une telle admiration pour ta peinture qu'il serait capable de rester sale pendant des années. Moi, j'aime mieux un tatouage, mais pas une nue. »
« Alors la tête seulement, proposa Drioli.
Je n'y arriverai jamais. Je te dis que c'est simple comme un bonjour. Je te la prendrai en 2 minutes, tu verras. Je vais aller chercher mes instruments, les aiguilles et les encres. J'ai des encres de toutes les couleurs. Et quelles couleurs ? Plus belles que les tiennes. »
C'est impossible. Mais si, tu verras. N'est-ce pas que j'ai des tas d'encre, José ?
Oui, c'est vrai. Je vais aller les chercher sur le champ, dit Drioli. Il se leva en vacillant légèrement, mais d'un air tout à fait décidé, et sortit. Une demi-heure plus tard, il était de retour.
J'ai tout ramené, dit-il en agitant à bout de bras une valise marron.
Il y a là tout ce qu'il faut pour faire un tatouage. Il posa la valise sur la table, l'ouvrit, en sortit les aiguilles électriques et les petites bouteilles d'encre qu'il étala sur la table. Il brancha l'aiguille, la prit et pressa sur le bouton. La pointe, qui avait à peine 1/2 cm de longueur, se mit à vibrer avec un rapide mouvement de va-et-vient. Drioli enleva sa veste et retroussa la manche de sa chemise sur son bras gauche.
« Maintenant, regarde, dit-il. Fais bien attention. » Tu verras, c'est enfantin. Je vais tracer un dessin sur mon bras, ici. »
Son avant-bras portait de nombreuses marques bleues, mais il choisit un coin de peau bien net pour y faire sa démonstration.
« D'abord, l'encre. Nous allons prendre du bleu ordinaire pour commencer. J'y plonge la pointe de mon aiguille, comme ça, puis je la tiens bien droite et je la laisse courir à la surface de la peau sans appuyer. »
Grâce au petit moteur, la pointe qui va et vient très vite fait sur la peau de minuscules piqûres où pénètre l'encre. Et voilà, le tour est joué. Tu vois, regarde, maintenant je vais dessiner un lévrier sur ma peau.
Le peintre semblait intrigué.
Laisse-moi essayer sur ton bras. Il prit l'aiguille bourdonnante et se mit à tracer des lignes bleues sur l'avant-bras de Drioli.
Tu as raison, dit-il, c'est très facile, comme un dessin à l'encre et à la plume, sauf que c'est plus lent.
« Je te l'avais dit, ce n'est rien, tu es prêt ? On commence ? » ?»«
Allons-y. »«
Le modèle !» appela Drioli. « Vite, Josie !»
Surexcité, plein d'enthousiasme, il allait, venait, bousculant tout dans l'atelier comme un enfant ravi de commencer un nouveau jeu.
« Où l'installer ? Dans quelle pose ? » ?»«
Là-bas, près de ma table de toilette, avec une brosse à la main et les cheveux dénoués. Je veux la prendre en train de se brosser les cheveux. »«
Magnifique ! Je te dis que tu as du génie !»
La jeune femme se leva d'assez mauvaise grâce pour prendre la pose, son verre à la main.
Drioli arracha vivement sa chemise, enleva son pantalon, ne gardant que caleçon, chaussettes et souliers. Il attendait debout, se balançant d'un pied sur l'autre. Son petit corps était râblé, sa peau blanche et à peine poilue.
« C'est moi qui suis la toile maintenant, dit-il. Où veux-tu la placer ? » ?»«
Bah, comme d'habitude, sur le chevalet. »
« Ne sois pas idiot, la toile, c'est moi.
Bah, »« Justement, mets-toi sur le chevalet, c'est ta place. »«
Comment veux-tu que je fasse ? » ?»«
Es-tu la toile, oui ou non ?»«
Je suis la toile, je commence à me sentir une toile. »«
Alors, rien de plus simple, mets-toi sur le chevalet. »«
Mais tu sais bien que c'est impossible. »«
Eh bien, assieds-toi sur la chaise, califourchon. »« Tu pourras appuyer ta caboche d'ivrogne sur le dossier. »«
Allons, vite, je commence. »«
Je suis prêt, je t'attends. »
« D'abord, dit le petit, je vais faire une simple esquisse à l'huile. Si elle me plaît, je la recouvrirai d'un tatouage. »
Il prit un large pinceau et commença à peindre sur la peau nue de Drioli.
« Aïe, aïe, aïe ! Un mille pattes géants se promène sur mes vertèbres.
Allons, tiens-toi tranquille. »
le petit travaillait vite, n'appliquant qu'une légère couche de peinture bleue pour ne pas être gêné lorsqu'il entreprendrait le tatouage. Il se concentrait à ce point que l'ivresse avait cédé à la passion du peintre. Il procédait par touches brèves de l'avant-bras sans jamais bouger le poignet. En moins d'une demi-heure, il avait terminé. « Ça va, c'est tout », dit-il à la jeune femme qui retourna au divan, s'y étendit de tout son long et tomba dans un profond sommeil. En revanche, Drioli, bien éveillé, observait le petit qui prit l'aiguille et la trempa dans l'encre. La piqûre aiguë, titillante, de la pointe qui courait sur sa peau nue, sensation plus désagréable que douloureuse, l'empêchait de s'endormir. De par les mouvements de l'aiguille qu'il sentait et les couleurs d'encre dont usait le peintre, il s'amusa à imaginer ce qui se passait sur son dos. Le garçon travaillait avec un acharnement extraordinaire. La nouveauté de l'instrument qu'il maniait, sa technique, les encres de couleur semblaient le fasciner. Jusqu'aux premières heures du jour, le garçon travailla sans relâche. Drioli se rappelait que lorsque l'artiste s'était enfin arrêté en disant « C'est fini », au dehors, le ciel était clair et l'on entendait le bruit des passants dans la rue. « Je veux voir », avait-il dit, et comme le garçon lui présentait un miroir à l'angle voulu, il avait tendu le cou pour regarder son dos dans la glace. « Nom de Dieu !» s'écria-t-il. C'était un spectacle fantastique. Tout son dos, des épaules jusqu'aux reins, n'était qu'un flamboiement d'or, de vert, de vermillon, de bleu et de noir. Le tatouage était si épais qu'il semblait en relief. Le garçon, suivant de près les coups de pinceau de l'esquisse, les avait chargés lourdement de couleurs. L'effet obtenu en incorporant dans sa composition les omoplates et la colonne vertébrale était saisissant. En dépit de la lenteur du procédé, l'œuvre donnait une impression de spontanéité et de vie. On y retrouvait les caractéristiques essentielles de la manière de Soutine, sa facture tordue et curieusement torturée. La ressemblance n'était pas parfaite, c'était plutôt l'expression d'un état d'âme qu'un véritable portrait. Le visage traité en flou rendait bien l'impression d'ivresse. Le fond tournoyait autour de la tête en une seule masse de coups de pinceau vert sombre, fiévreux et tourmenté. C'est absolument extraordinaire. J'avoue que je n'en suis pas mécontent. Le garçon recula, observa son travail d'un œil critique. J'en suis même assez content, dit-il, pour le signer. Reprenant l'aiguille, il inscrivit son nom à l'encre rouge à droite en bas sur les reins de Drioli. On fait une petite pause musicale avant de poursuivre ce texte et je vous retrouve avec plaisir.
Vous êtes bien sur CFM 90.2, dans l'émission Plus profonde des ondes, et je vous fais lecture aujourd'hui d'un texte de Roald Dahl qui s'intitule Peau, P-E-A-U. Il s'agit d'un peintre qui fait un tatouage de femme sur le dos de son ami. Nous poursuivons donc le texte. Le vieil homme nommé Drioli regardait le tableau exposé dans la vitrine de la galerie avec des yeux fixes et de somnambules. Que c'était vieux, que c'était loin tout ça. Il avait l'impression d'avoir vécu ces choses-là dans une vie antérieure. Et le petit, il se souvient d'avoir remarqué son absence à son retour de la guerre. La vraie. Il avait alors demandé de ses nouvelles à Josie. Où est passé mon petit Kalmouk ? Je n'en sais rien, il est parti. On m'a dit qu'un marchand l'avait pris en main et l'avait envoyé travailler à Séré. C'est la dernière fois que son nom fut prononcé entre eux. Peu après, ils s'installèrent au Havre, où les marins étaient nombreux, et le commerce prospère. Le vieil homme sourit en se rappelant le Havre. Quelles bonnes années entre les deux guerres. Il avait sa petite boutique près des docks, un logement coquet, et ne manquait jamais de clientèle. Tous les jours, 3, 4 et parfois même 5 marins entraient pour se faire tatouer. Oui, vraiment, ce furent là des années de bonheur. Et puis vint la Deuxième Guerre. Josie fut tuée et les Allemands arrivèrent. Alors, plus de travail du tout. Dans des moments pareils, qui eût pensé à se faire tatouer des images sur le bras ? Drioli était trop vieux pour apprendre un autre métier. Désemparé, il avait réussi tant bien que mal à gagner Paris, avec l'espoir un peu vague que les choses s'arrangeraient dans la capitale. Mais il n'en avait rien été. Maintenant, la guerre terminée, il n'avait plus ni argent ni énergie pour remettre sur pied son petit commerce. Ce n'était pas facile pour un vieil homme de se débrouiller, surtout s'il ne voulait pas mendier. Mais comment faire pour vivre ? Eh bien, se dit-il, voilà mon petit Kalmouk. C'est curieux comme un seul objet suffit à ranimer tout un passé. Quelques instants plus tôt, il se rappelait à peine le tatouage sur son dos. Il n'y avait plus pensé depuis des années. Il rapprocha sa figure de la vitrine pour jeter un coup d'œil à l'intérieur de la salle. Sur les murs, il vit de nombreux tableaux caractéristiques de la manière de l'artiste, et dans la salle, beaucoup de monde. Évidemment, l'exposition était d'importance. Mu par une impulsion subite, Drioli se retourna et, poussant la porte, entra dans la galerie. La pièce était longue, tendue d'un tapis moelleux, couleur de vin vieux. Dieu qu'il faisait bon et chaud. Des gens propres, dignes, bien habillés, un catalogue à la main, allaient d'une toile à l'autre. Drioli, debout devant la porte, lançait des regards craintifs à la ronde, n'osant se mêler à cette foule élégante. Mais avant qu'il pût faire un geste, une voix demanda « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» L'homme qui l'apostrophait portait une jaquette noire, courteau, grassouillé. Il avait un visage pâle et des bajoux flasques comme un épagneul. Il se rapprocha de Drioli en répétant « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Drioli ne bougea pas. « Faites-moi le plaisir de déguerpir, » dit l'homme. « Allez, ouste, sortez de ma galerie. » « Et pourquoi donc ? J'ai bien le droit de regarder l'exposition, moi aussi. Je vous ai dit de sortir. » Loin de se laisser intimider, Drioli se sentait au contraire furieusement outragé par ce ton. « Allons, » disait l'homme, « pas d'histoire. Sortez vite par ici. » Il posa sa main blanche et grasse sur le bras de Drioli pour le pousser fermement vers la sortie. Ce geste mit le vieil homme hors de lui.
Lâchez-moi, enlevez vos sales pattes, ne me touchez pas, hurla-t-il. Sa voix résonna forte et claire dans la longue salle, et d'un même mouvement, tous les regards se tournèrent vers l'auteur du scandale. Un employé empressé courut vers son patron pour l'aider à chasser l'intrus. Tous deux bousculèrent Drioli, le repoussant vers la sortie. Les spectateurs assistaient à la lutte en silence. Leurs visages n'exprimaient qu'indifférence et leurs regards semblaient dire « Ça va, pas de danger, on règle l'histoire sans nous. » « Moi aussi, hurlait Drioli, moi aussi j'ai une œuvre de Soutine. C'était mon copain et je possède une œuvre de lui. » C'est un fou, il est peut-être dangereux. On devrait appeler police secours. Une brusque torsion de son vieux corps, Drioli se dégagea, et avant que l'on pût intervenir, il descendit en courant la longue galerie, criant à tue-tête « Vous allez voir, vous allez voir !» Il arracha son manteau et sa chemise, les jeta à terre et se retourna, présentant son dos nu à l'assistance. « Voilà, fit-il, essoufflé, le voilà, mon tableau !» Un silence de mort tomba sur la salle. Chacun s'arrêta, figé, frappé d'une stupeur à laquelle se mêlait un certain malaise. Tous regardaient l'image tatouée sur le dos de Drioli. Elle était là, éclatante comme au premier jour. Ses couleurs n'avaient pas changé, mais le vieil homme avait maigri, ses omoplates saillées, et le portrait avait pris un aspect bizarre, fripé et aplati. Quelqu'un cria « Ma parole, mais c'est vrai !» Cette exclamation déchaîna une grande agitation, un brouhaha, tandis que la foule s'avançait pour entourer le pauvre air. On ne saurait s'y tromper. C'est sa première manière, n'est-ce pas? Penchez-vous un peu, mon ami, s'il vous plaît, afin que le tableau soit tendu et bien à plat. C'est inouï, absolument inouï. Regardez, c'est même signé. Dites-moi, grand-père, quand cette œuvre a-t-elle été faite? En 1913, répondit Drioli sans se retourner. L'automne. 1913. Mais qui lui a appris à tatouer? C'est moi. Et le modèle? Ma femme. Le propriétaire de la galerie se fraya un passage à travers l'assistance pour se rapprocher de Drioli. Il était calme, grave même, un sourire esquissé au coin des lèvres. « Monsieur, dit-il, je vous l'achète. » Drioli voyait trembloter la chair molle de son visage. « Je vous propose de me le vendre, monsieur. » « Comment voulez-vous l'acheter ?» demanda Drioli à voix basse. « Je vous en offre 200 000 francs. » Ses petits yeux noirs brillaient, et de chaque côté de son large nez, ses narines s'étaient mises à palpiter. « N'acceptez pas, souffla une voix derrière lui. Cela vaut 20 fois plus. » Drioli ouvrit la bouche, mais ne put prononcer un seul mot. Il la ferma, la rouvrit, murmura, enfin très doucement. « Comment puis-je la vendre ?» Il leva les bras, les laissa retomber avec lassitude et répéta « Mais comment puis-je le vendre ?» Toute la tristesse du monde s'exhalait dans sa voix. « Oui, reprenait-on dans l'assistance, comment peut-il le vendre? Le tableau fait partie de son corps. « Écoutez, dit le marchand de tableaux en se rapprochant davantage, je vous aiderai. Je vous ferai riche. Nous allons conclure un petit arrangement privé pour ce tableau, non ?» Drioli le suivait des yeux avec inquiétude. « Enfin, monsieur, comment voulez-vous l'acheter? Qu'en ferez-vous lorsqu'il vous appartiendra? Où le mettrez-vous ce soir, par exemple, et demain ?»« Ah oui, où je le mettrai? Où vais-je le mettre? Voyons, je vais le mettre, donc, d'un doigt blanc et gras, le marchand caressait son large nez. « Évidemment, dit-il, si j'achète le tableau, il faut que je vous achète aussi. C'est à première vue un désavantage. Ce tableau n'aura de valeur qu'après votre mort. » « Voyons, quel âge avez-vous, mon ami ?»« 61 ans. »« Vous ne semblez pas très solide, hein ?» Le marchand laissa retomber sa main et se mit à considérer Drioli de la tête aux pieds comme un maquignon en train d'estimer une vieille rosse. « Je n'aime pas ça, monsieur, » fit Drioli. « Franchement, je n'aime pas ça. » Esquissant un mouvement pour s'en aller, il tomba dans les bras d'un homme de haute taille qui le retint en lui posant les mains sur les épaules. Drioli voulut s'excuser. L'inconnu se pencha vers lui, tout sourire, et pour le rassurer, lui tapota doucement l'épaule, d'une main gantée de jaune canari. « Dites-moi, mon ami, » fit-il d'une voix aimable, « aimez-vous nager et prendre des bains de soleil ?» Drioli le regarda stupéfait. « Aimez-vous les plats cuisinés, les vins fins, des meilleurs crus bordelais ?» L'homme souriait toujours, découvrant une solide rangée de dents blanches où brillait par instant un éclair d'or. Mon Dieu, bien sûr, répondit Drioli perplexe, ne sachant où l'autre voulait en venir. Goûtez-vous la compagnie des jolies femmes. Pourquoi pas? Aimeriez-vous une penderie qui regorge de costumes, de chemises, de par-dessus, fait sur mesure? Il me semble que votre garde-robe est un peu succincte, non? Drioli laissait parler l'homme en sueur, attendant la suite de sa proposition. Avez-vous jamais porté des souliers confortables, faits tout exprès pour vos pieds? Non. Croyez-vous que cela vous plairait? Eh bien, que diriez-vous si un coiffeur venait tous les jours vous faire la barbe et rafraîchir la coupe de vos cheveux? Drioli l'écoutait bouche bée. Et une jolie fille potelée pour vous soigner les mains? Henri refusa dans l'assistance. Et une sonnette à portée de votre main pour appeler la femme de chambre et vous faire servir votre petit déjeuner au lit. Que diriez-vous de cette vie-là, monsieur? Aurait-elle de l'attrait pour vous? Drioli, ébahi, ne pipait mot. Voyez-vous, monsieur, je suis propriétaire de l'hôtel Bristol à Cannes. Je vous invite à descendre avec moi sur la côte pour passer le reste de vos jours dans le confort et le bien-être, à mes frais, bien entendu. L'inconnu s'arrêta sur ces mots pour laisser à son interlocuteur le temps de savourer cette perspective pleine de délices. Votre seule obligation, oserais-je l'appeler votre plaisir, sera de vous prélasser au soleil, en maillot de bain, sur ma plage privée, en buvant des cocktails. Cela vous déplairait-il par hasard, monsieur? Drioli ne répondait toujours pas. Je vois que vous ne me suivez pas. Voyons, mes clients auront ainsi la joie d'admirer à loisir l'admirable tableau de Soutine que vous avez sur le dos. Vous deviendrez célèbre. On dira, voilà l'homme dont la peau vaut 10 millions. Acceptez-vous ma proposition? Attendez, grand-père, interrompit le marchand de tableaux. J'ai trouvé une solution à nos petites difficultés. J'achète le tableau et je m'arrange avec un chirurgien habile pour qu'il enlève la peau de votre dos. Vous pourrez vous en aller libre de dépenser à votre guise la grosse somme d'argent que je vous paierai après l'opération. Sans peau sur mon dos? Mais non, vous ne comprenez pas, mon ami. Le chirurgien remplacera votre vieille peau par une peau neuve. L'opération est-elle possible? Peut-elle réussir? Et pourquoi pas? Impensable, dit l'homme aux gants canaris. Il est trop âgé pour une greffe de cette importance. Il en mourrait. J'en mourrais, sans aucun doute. Seul le tableau sortirait indemne de l'aventure. Juste ciel, s'écria Drioli, regardant avec consternation les visages qui l'entouraient. Dans le silence qui suivit cette exclamation, on entendit une voix dire d'un ton narquois du fond de la salle « Qui sait peut-être que si l'on offrait une somme suffisante à ce vieillard, il consentirait à se tuer séance tenante ?» Il y eut quelques rires contenus. Le marchand, mal à l'aise, se dandinait d'une jambe sur l'autre. Drioli sentit encore sur son épaule le tapotement affectueux de la main gantée de canari. Son possesseur lui souriait, découvrant toutes ses dents blanches. Que diriez-vous d'un bon petit gueuleton bien tranquille pour discuter de nos affaires? Drioli l'écoutait, les sourcils froncés. Il n'aimait pas du tout le long cou flexible de l'inconnu, ni sa façon de le dresser vers son interlocuteur comme un reptile. Du canard rôti et du chambertin, proposa l'homme. Et peut-être un soufflet au marron, très mousseux, très louger. Il mettait un accent succulent sur les mots, les faisant claquer contre sa langue. Le regard de Drioli vacilla ses lèvres s'entrouvrir. Le pauvre homme en bavait littéralement. « Et comment préférez-vous le canard? Bien doré avec la peau croustillante ou bien... »« Je viens, » dit Drioli précipitamment. Il ramassa sa chemise, l'enfila comme un fou, tout en criant « Je viens, attendez-moi, j'arrive !» En un clin d'œil, il disparut de la galerie avec son nouveau protecteur. Quelques semaines plus tard, à Buenos Aires, on vit apparaître dans une vente un tableau de Soutine, un portrait de femme d'une facture insolite, richement encadrée et lourdement vernie. Et si l'on songe qu'il n'existe pas d'hôtel Bristol à Cannes, cela donne à penser. Il faut espérer que le vieil homme se porte bien, et quel que soit maintenant le lieu de son séjour, souhaitait ardemment qu'il s'y trouve une jolie fille potelée pour lui faire les mains et une femme de chambre pour lui servir son petit déjeuner au lit tous les matins. Du moins, on l'espère. Merci de votre écoute. Je vois qu'il reste un petit peu de temps. Je vais vous lire une dernière petite histoire, tout à fait courte. Il s'agit d'abeilles tueuses. Passons donc à toute autre chose. Sauvé par une abeille tueuse. C'est un barbecue du dimanche dans la région de Grenoble. Camille a 7 ans. Elle reçoit ses amis pour son anniversaire. Il y a du poulet, des saucisses, des chips, des crocodiles Haribo, des fraises Tagada et son cadeau, une piscine gonflable. Celle-ci prend toute la place dans le petit jardin, repoussant la table, les chaises et le barbecue. Comme le charbon est humide, le père de Camille active les braises avec un ventilateur électrique. Il le pose au coin de la table et place le chipolata sur le grill. Pour fêter son âge de raison, comme dit sa maman, Camille lui a emprunté du vernis à ongles qui décore ses doigts de pied. Maintenant qu'il est sec, elle va pouvoir inaugurer la pièce au dos en caoutchouc turquoise. Au moment où elle va tremper ses orteils, une abeille qui patrouillait au-dessus des fraises Tagada fonce droit sur son pied gauche et la pique. Camille pousse un cri. Tout le monde se retourne vers elle. Elle s'abat sur une chaise, en pleurs, regarde gonfler son pied, l'abdomen déchiré par son dard qui est resté dans la plaie. L'abeille agonise entre deux os. C'est alors que le ventilateur, en équilibre instable, tombe dans la piscine, toujours branchée. Court-circuit, effroi, panique rétrospective. L'abeille électrocutée a-t-elle sauvé en la piquant la petite fille ? Gilbert Maury, ami de la famille, assiste à la scène. Biologiste, éthologue, c'est un ancien élève du professeur Rémy Chauvin, le grand spécialiste du comportement des abeilles, qui a poursuivi les travaux du prix Nobel Carl von Friedrich sur leur langage et leur incroyable pouvoir psychique. Maury, qui connaît à fond leur psychologie, s'interroge sur les motivations de la kamikaze qui gît dans la piscine gonflable. Si les abeilles sont capables de mémorisation complexe, de calcul de distance, d'orientation, de transmission de données spatio-temporelles par une danse, et même, comme l'a prouvé Carl von Friedrich, d'anticipation relative à une action humaine, le souci de la protection des autres espèces n'entre pas en ligne de compte, jusqu'à preuve du contraire, dans leur extraordinaire intelligence. Certes, elles font preuve de solidarité, d'entraide et d'une forme de compassion envers leurs congénères blessés. Les bouches inutiles de la ruche qu'elles continuent parfois à nourrir, sans raison apparente et dont l'oisiveté, observe Carl von Friedrich, semble réguler l'activité de la colonie. Les éclopés surveillent le rendement de la reine pondeuse, l'état des effectifs et des stocks, les déficits de main-d'œuvre. Bref, chez les abeilles, conclut-il, l'harmonie du travail existe donc en grande partie grâce aux paresseuses. Et quand on prête aux ouvrières en charge de la reine la cruauté ingrate des mantes religieuses, on a tort. Elles n'éliminent les mâles après usage que pour des raisons thermiques. Ils ne savent pas réguler leur température comme elles le font pour que la ruche demeure à 37 degrés C tout l'hiver. Et elles condamneraient la colonie en la faisant refroidir par ses incapables. Mais si leur instinct social les amène à se comporter comme les neurones d'un seul cerveau, qui serait la ruche, en revanche, elles se fichent pas mal des autres espèces. Cela étant, elles n'attaquent l'être humain ou tout autre prédateur que dans un cas de figure précis. Lorsqu'elles sentent que leur reine, la seule abeille féconde de la colonie, est en danger. C'est-à-dire lorsqu'on attaque la ruche, ou lorsqu'on l'a attaquée. Faites l'expérience. Si une abeille vous a piqué pour défendre sa reine, toutes les abeilles que vous croiserez vous repiqueront pendant au moins 24 heures. En effet, le venin injecté par leur dard est porteur d'une phéromone d'attaque, l'acétate d'isoamyle, qu'elles perceront ensuite à votre approche comme un signal d'alarme. Agresser de réchef l'agresseur pour empêcher qu'elle ne réagresse, c'est le principe de précaution qu'elles emploient depuis des millions d'années. Mais bon, la petite Camille n'avait pas attaqué de ruche et n'avait jamais été piquée. L'abeille était donc folle, une dégénérée, une mutante, une kamikaze. On parlait déjà beaucoup à l'époque des abeilles tueuses. Précisons d'emblée que leur émergence ne procède pas d'une évolution de la nature, mais d'une fabrication humaine aggravée par un défaut d'étanchéité. Petit historique. En 1956, le Brésil avait importé de Namibie une sous-espèce de lapis mellifera, la Scutellata, et l'avait croisée en laboratoire avec des abeilles européennes. Le résultat du métissage fut un hyménoptère beaucoup plus productif, résistant aux insecticides et particulièrement agressif en cas de danger. On l'appelle officiellement l'abeille africanisée, ce qui choque beaucoup de le documentariste Michael Moore, qui milite ardemment pour obtenir son changement de nom. Mais le danger auquel elle nous expose ne se limite pas aux dérives de l'amalgame raciste. 26 reines issues de cette hybridation se sont échappées d'un laboratoire de Sao Paulo en 1960. Elles ont rapidement colonisé l'Amérique du Sud, tuant les reines des ruches où elles trouvaient asile, pondant à leur place et imposant ainsi à la nature le métissage artificiel dont elles étaient issues. Elles ont atteint le Mexique en 1985 et en 1990, elles ont fait leur entrée aux États-Unis. Elles résistent à tous les facteurs qui déciment leurs congénères. Elles semblent insensibles aux agressions chimiques, électromagnétiques et acariennes. Ce pouls fatal, le varroa, qui était circonscrit à l'île de Java et qui s'est répandu sur toute la planète quand les Soviétiques, dans les années 60, ont importé une reine javanaise pour augmenter le rendement de leur ruche. Mais surtout, fait inédit, depuis que l'homme les a rejointes sur Terre, leur apparition remonte à 140 millions d'années. Elles s'attaquent à lui de façon préventive, semblant le considérer non sans raison comme leur prédateur le plus dangereux. Les africanisés l'empêchent d'approcher des ruches. Elle refuse de se laisser exploiter pour poloniser les millions d'hectares d'amandiers qui épuisent et déciment leurs sœurs dociles. Et de véritables commandos s'abattent sur les habitations humaines, comme ce 24 juillet 2013 où, dans le nord du Texas, un essaim de 30 000 abeilles s'est jeté sur la jeune Kristen Beauregard pour l'exterminer. La victime a plongé dans sa piscine pour échapper aux piqûres, mais les tueuses restaient en vol stationnaire au-dessus d'elle, l'attaquant dès qu'elle sortait la tête de l'eau pour respirer. Grâce à l'intervention des pompiers, Christine a pu survivre in extremis, à plus de 200 piqûres. Mais l'hybridation est-elle vraiment la cause de cette folie meurtrière, ou simplement son facteur aggravant? Voilà, est-ce que par nature elle est déjà très agressive? Revenons 20 ans plus tôt, le jour de l'anniversaire donc de Camille. Le biologiste Gilbert Maury repêche l'abeille tueuse, l'emporte et l'autopsie. Ce n'est pas une hybride. C'est une bonne vieille Apis mellifera legustica, l'ouvrière italienne la plus prisée des apiculteurs. Pourquoi est-elle devenue soudain agressive? Ni le comportement de la fillette, ni son absence de piqûres antérieures ne peuvent justifier le choix délibéré de cette victime. Maury se concentre alors sur la cible. Qu'a-t-elle de particulier, la petite Camille? C'est ainsi qu'il se focalise sur le vernis à ongles, à moins d'un centimètre de l'orteil où s'est planté le dard. Renseignement pris, personne d'autre que la gamine ne portait de vernis ce jour-là. Gilbert Maury fait analyser le flacon. De son côté, en Bretagne, le docteur René Péoc, un autre élève du professeur Chauvin, est ému des attaques à répétition dont sont victimes ses voisins de la part des saints à qui ils n'ont rien fait. Là encore, ce sont des abeilles européennes de souche pure, au comportement tout à fait normal par ailleurs, d'après leur apiculteur. Qu'est-ce qui a pu les rendre aussi belliqueuses soudain? Si l'attitude de ces gens n'est pas en cause, serait-ce leur environnement? Une seule chose a changé chez les voisins de Péoc, juste avant les attaques des saints. Le revêtement du portail est dévoilé. Du coup, le médecin leur emprunte un pot de peinture et en isole les composants. Pendant ce temps, près de Grenoble, le biologiste procède à l'analyse du vernis à ongles de Camille. Surprise, les deux chercheurs tombent sur un ingrédient commun, l'acétate d'isoamyle, la même formule que le marqueur d'alerte des abeilles. La signature chimique trahissant les assaillants de ruches. La voilà l'explication de l'agressivité de ces abeilles. Repeindre ses volets ou se faire des ongles revient à passer pour un terroriste à leurs yeux, une menace permanente pesant sur leurs ruches et leurs reines. La publication de cette découverte ne changea rien au problème. Alertés sur la dangerosité de ce composant, les fabricants de peintures, de vernis et de parfums ont jugé inopportun de retirer l'acétate d'isoamyle de leurs produits. Les écologistes ont fait la sourde oreille et les divers gouvernements s'en lavent les mains. Ils ont tort. La plupart des savons parfumés les transforment en cibles à dards. Cela dit, même si vous gardez vos mains sales, vos ongles nus et vos huisseries brutes de revêtements, vous risquez de vous faire attaquer en mangeant. L'acétate d'isoamyle, c'est aussi l'arôme banane. Il est présent dans beaucoup plus d'aliments et de friandises que vous n'imaginez, surtout aux États-Unis. D'où les ravages opérés par les abeilles africanisées, chez qui, rappelons-le, l'agressivité dans la défense, résultat du métissage, n'est pas une question de nature, mais de degré. Elles ne se sont pas changées en tueuses par cruauté acquise. Elles ont juste mis à profit leur renforcement génétique dû aux manipulations humaines pour être plus efficaces dans la protection de leur colonie. Pour elles, c'est nous qui sommes devenus des tueurs. Et elles sont en légitime défense. Comment leur expliquer que nous leur avons bien fait, que nous sommes de simples consommateurs, qu'elles sont attaquées uniquement par l'arôme banane, les cosmétiques et les revêtements industriels dont seuls les fabricants mériteraient une piqûre de rappel? Camille, la rescapée de la tueuse de Grenoble, a été bien marquée par son aventure enfantine. Et tout ce qu'elle a retenu, longtemps, c'est la version conte de fées donnée par son père. Une abeille extralucide s'était sacrifiée pour lui, éviter d'être électrocuté par le ventilateur qui allait tomber dans sa piscine gonflable. Résultat, elle est devenue apicultrice. Merci pour votre écoute, et ce sera avec grand plaisir. À la semaine prochaine, bien sûr.